Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
J'aime rire. J'aime rire autant que OSS 117 aime se beurrer la biscotte. J'aime rire tout le temps, au réveil, à midi ou à minuit. J'aime rire parce que je me sens libre, parce que mon corps se relâche, parce que mes zygomatiques se musclent, parce que j'aime sentir les larmes salées sur mes joues. J'aime rire et j'aime qu'on me dise que mon rire est communicatif. Comme si cette expression d'euphorie créait tout à coup un lien entre vous et moi. J'aime rire à gorge déployée ou discrètement derrière un livre. J'aime l'humour noir, l'humour vache, le deuxième et le troisième degré. J'aime l'ironie, la dérision et l'autodérision. Mais je n'aime pas avoir un rire nerveux, un rire de défense, un rire parce que les mots ne viennent plus. Je veux rire avec gourmandise, intelligence, empathie. Il y a 50 nuances de rire, au moins. Mais comment riait-on dans le passé? Quels sont les sujets qui nous amusent encore aujourd'hui? Et vous, avez-vous le sens de l'humour?
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Trois invités ce matin pour évoquer toutes les nuances de rire, 50 nuances, voire plus. Alors petit avertissement, je ne poserai pas la question, peut-on rire de tout? Bonjour Jean-François Alain.
Oui, bonjour, bonjour
vous
à tous.
Vous êtes scénariste, dialoguiste, sur votre CV, entre autres, Les Guignols de l'Info, les spectacles de Patrick Nimsit, une série que j'adore au service de la France, et les trois volets de OSS 117. J'ai tout bon?
Oui.
J'ai presque tout bon. Avec nous également, Amel Chabi. Bonjour Amel.
Bonjour.
Alors vous êtes, comment dire, stand-upeuse, ça existe ce mot parce que vous faites du stand-up. Vous êtes aussi réalisatrice, autrice, comédienne, animatrice de podcast avec Dinguerie Room. Ouf, j'ai envie de dire. Et en ligne avec nous également, Sabine Melchior-Bonnet. Bonjour Sabine.
Bonjour Eva.
Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire des sensibilités et autrice du livre « Le rire des femmes, une histoire de pouvoir » paru au mois d'avril aux éditions PUF. C'est un livre qui devrait être obligatoire dans tous les programmes scolaires, Sabine. Mes premières questions à tous les trois. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous avez ri et pour quelle raison, Jean-François Alain?
C'était hier soir, je me souviens plus bien pourquoi, mais j'ai beaucoup ri hier soir, parce que j'étais avec un ami, la phrase va être débile, j'étais avec un ami québécois, donc c'est pas pour ça que c'est drôle, mais voilà, comme si c'était très drôle avec un québécois, mais donc voilà, donc hier soir. Voilà.
Mais c'était avec un ami, c'est important le lien social que provoque le rire, c'est pour ça que je vous pose aussi cette question. Amel Chabi, la dernière fois que vous avez ri?
Hier soir, pareil, avec ma meilleure amie, Zina Kachnaoui, on parlait de garçons, et on les vannait. Hein, donc un truc assez classique hein, et on s'est fait des barres.
On s'est fait des barres de rire, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Sabine Melchior-Bonnet, la dernière fois que vous avez ri?
Tout à l'heure, je peux rire toute seule, c'est drôle. Et puis surtout, je reprends votre présentation, je pense que deux personnes qui rient ensemble ne peuvent pas être des ennemis. Et ça, je trouve que c'est formidable.
Alors, je crois que ça fait partie des plus belles phrases que vous avez dans votre livre, à croire que le rire est finalement un motif de fraternité absolue.
Oui, ça fait dégringoler l'autorité, ça fait dégringoler tous les oripeaux dont on s'entoure, surtout plus on est une personne élevée dans la société, plus il y a des artifices, et tout d'un coup tout lâche. Et on peut rire ensemble, voilà. J'y crois beaucoup.
Il y a une entreprise qui est très difficile, Sabine Melchior-Bonnet, c'est de définir le rire et l'humour. Est-ce que vous avez tenté cette expérience de la définition?
Non, j'ai laissé ça aux philosophes, aux théoriciens. Ça n'a pas été vraiment le sujet. Mon sujet, c'était vraiment pourquoi le rire des femmes est tellement interdit pendant très longtemps.
Oui.
Et au fond, j'ai compris que les femmes qui rient pendant très longtemps, elles sont toujours ou du côté des hystériques ou du côté des friponnes. Et au fond, les hommes cherchent à se débarrasser, disons, des résidus d'un matriarcat. Il y a toujours quelque chose du matriarcat qui est là quand les hommes ont peur du rire.
Voilà. On va en reparler tout au long de cette émission de ce sujet que vous avez abordé. Amel Chabi, à défaut de définir l'humour, à quoi ressemble le vôtre d'humour?
Mon humour est basé sur l'autodérision, le sens de l'observation et sur l'anecdote.
Et vous vous servez de la société comme sujet principal.
Absolument.
Et source d'inspiration.
Absolument, sur ce que je vis, sur ce que mes amis vivent, et j'essaye d'en tirer quelque chose sous couvert d'une anecdote, et il y a du fond, du propos, et on essaye de se poser des questions avec le rire.
Vous dites que parfois vous vous sentez en mission, ça veut dire quoi?
Oui, c'est ce que je disais à Margot, je disais...
Qui prépare l'émission
oui,
avec
voilà,
nous.
Oui, voilà, qu'on adore, hein, Margot.
Et je on disais aime beaucoup
que,
Margot.
Ouais, on aime beaucoup vraiment, Margot. Ouais. Et je disais quoi, que dans ma tête, moi je suis en mission vraiment, c'est-à-dire que le rire est très, enfin je prends très au sérieux le rire, ça me permet de véhiculer des choses, de me poser des questions, de mettre à plat, enfin dès qu'il y a des soucis dans l'actualité, de poser ça et d'essayer d'avancer vers quelque chose de meilleur quoi.
Sabine Melchior-Bonnet, l'autodérision est un trait de caractère que vous aimez particulièrement chez les femmes humoristes?
Oui, je trouve qu'elles ont un certain courage de reprendre les préjugés masculins et puis de les retourner. En fait, moi, ce que j'aime dans le rire, c'est que ça retourne une situation. Et je peux vous donner un exemple que j'aime bien quand on dit à quelqu'un « Vous étiez si jolie que je ne vous aurais pas reconnue ».
Oui.
Vous voyez, c'est quelque chose. C'est une phrase qui tourne à l'envers. Ou bien, quand on a deux personnes qui vivent ensemble, il a plus de goût qu'elle. Vous voyez, c'est quelque chose. On croit qu'on dit quelque chose de gentil, mais pop, ça se retourne. J'aime bien ces surprises, la surprise que donne le rire.
Je suis Amel tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est vrai que quand on monte sur scène, quand on est stand-upeuse par exemple, on sent qu'il y a des préjugés, on sent, surtout quand on passe les uns après les autres, les humoristes les uns passent les uns après les autres, on se
et
dit...
dans le cadre des plateaux
voilà,
d'humoristes.
Dès qu'il y a une fille, je ne sais pas d'où vient cette rumeur que les filles sont moins marrantes que les garçons. Et c'est vrai qu'on le sent dans le public. Les premières minutes, le public se dit « Ah, elle va être moins marrante ». Et le but, c'est de casser un peu ce cliché.
Mais alors, c'est marrant ce que vous dites, parce que, en fait, en vrai, le public vous dit pas « Attention, il y a une fille, ça va être moins marrant ». C'est vous qui avez l'impression de le voir dans le regard du public.
C'est pas une impression. Je le vois. Je le vois dans les yeux, dans les bras qui commencent à se croiser, dans les yeux qui commencent à se lever en l'air. Je le vois. Je le vois, et dès la première vanne, dès qu'on est marrant, bon bah, hop, les bras se décroisent. Mais il y a toujours ce petit truc.
Il faut prouver.
Alors Jean-François Alain est un garçon, mais il est très drôle aussi.
Oh bah
oui, j'ai vu ça dans les couloirs.
Non mais ça me paraît incroyable de mais je pense que vous avez entièrement
raison.
Non,
tutoie-moi, mais...
Oui,
tutoie-moi,
que tu as raison. Mais ça me paraît incroyable parce que quand on regarde, c'est très paradoxal. Aujourd'hui Florence Foresti, quand même la comique la plus populaire. C'est drôle d'imaginer qu'une femme ait d'abord des preuves à faire pour faire rire. Enfin, ce que tu dis là, dire vas-y, pour l'instant tu ne me fais pas rire parce que tu es une femme. Il faut que tu.
Ouais.
Que c'est difficile. Alors que c'est la comique la plus populaire, comme c'est le comique.
Ouais, complètement. Ouais.
Et quand on parle dans un autre registre, Blanche Gardin aussi, par exemple, qui a quand même ouvert des portes, ça paraît dingue de. Ça paraît dingue que cette situation-là existe. Voilà.
Et je vais te dire même une chose, la manière dont on s'habille quand on arrive sur scène. Tu vois, moi, de temps en temps, j'arrive avec des talons, une jupe et tout, parce que j'ai envie. Et les humoristes femmes vont me dire, oh là là, qu'est-ce que t'es libre, oh, t'as de la chance et tout, tu montes en talons, quoi.
Alors qu'il y a des femmes qui ont tendance à se cacher sur scène, avec le sweat à capuche, avec des robes noires un peu qui cachent les formes, c'est ça?
Voilà, pour que le spectateur se concentre sur le propos et pas sur la jupe, les talons, il y a tout un truc, quoi.
Jean-François Alain, est-ce que votre humour est empli d'autodérision aussi?
Je sais pas du tout. J'espère. Je ne sais pas.
Vous arrivez à le définir, votre humour, ou pas du tout? Ou c'est trop compliqué aussi?
C'est un peu compliqué, mais moi j'aime bien gêner les gens. Mais j'espère que je ne gêne pas trop en disant qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce que c'est pas drôle. J'aime bien gêner, j'aime bien être... à côté, dire des choses qu'a priori il ne faudrait pas dire.
Vous voulez qu'on écoute un petit aperçu de votre écriture? Un minuscule aperçu de votre écriture.
Je ne veux pas ennuyer les gens, je ne veux pas les gêner non plus.
Non mais moi ça ne m'ennuie pas. La bande-annonce de OSS 117, alerte rouge en Afrique noire.
Hubert, que savez-vous de l'Afrique?
Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien.
Très bonne analyse, Hubert. Je compte sur vous. Aucun malentendu. Nos amis voient du racisme partout.
Le président vous recevra à 16h.
Parfait. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair.
OSS 117, je vous présente OSS 1001.
117, le vrai, l'unique, la légende. vous savez très bien que j'opère toujours en solo.
Cette mission, vous allez me la mener tous les deux.
Les rebelles veulent balayer le président Bamba.
Sangaré Bamba est un ignoble dictateur. C'est pour ça que j'ai contrepris ce pays en main.
Il y a quand même un hic. Et un hic de taille. Vous êtes une femme.
Et une femme présidente.
Il fallait qu'on finisse sur cette vanne de la femme. Jean-François,
qui tombe bien.
Oui, qui tombe bien. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Vous savez, quand on prépare une émission, parfois il y a des questions un peu incongrues qui nous apparaissent aussi, qui apparaissent dans notre cerveau. Je me suis demandé s'il existait une blague universelle. Vous savez, cette blague qui pourrait faire rire tout le monde sur tous les continents, tout le temps.
Elle serait suspecte, non ?
Elle serait suspecte ?
Ben, je pense. Moi, je me méfie toujours de... C'est facile à dire quand on fait des choses qu'il ne faut pas... Les choses que j'ai faites n'ont pas fait des succès publics immenses, mais suffisamment pour que ça continue à exister. Mais je me méfie toujours des choses qui font de grands succès publics et qui font rire tout le monde. J'ai l'impression que... Je ne sais pas.
Parce c'est... que c'est un peu trop facile.
Il faut pas que du ça... tout. Pas du tout. Je respecte ça. Oui. Je respecte les films qui font 10, 12 millions d'entrées. Ou les... Mais je trouve, je sais pas. C'est idiot ce que je dis, Amel. Peut-être,
je sais pas.
Non,
mais je comprends. Je te comprends parce que, ouais, c'est ton ressenti par rapport à ce que toi tu fais. Faire un truc. Que tout le monde aime, peut-être que tu aimes les niches en fait.
Tu aimes les niches.
J'aime les niches et c'est exactement ça.
Ça sera la prochaine vanne de.
Et pour moi justement, je pensais à ça tout à l'heure, je me disais que l'humour dans ma vie, pour moi, c'est comme un peu comme un chien d'aveugle, c'est-à-dire que c'est mon chien d'aveugle, c'est-à-dire que ça me permet de me guider, de sinon ça m'empêche d'être triste, voilà, tout simplement. Et je pense que enfin c'est comme ça que je le vois, voilà. Et
je voudrais qu'on aille du côté de Sabine. Sabine Melchior-Bionnet, j'aimerais rappeler le titre de votre livre, le titre entier, parce que c'est Le rire des femmes, et en dessous il y a une ligne où c'est marqué une histoire de pouvoir. Cette histoire-là, c'est quoi ? C'est une histoire de pouvoir et de domination ?
Je pense que c'est d'abord pour essayer de rivaliser et d'être considéré comme une égale de l'homme. Je pense que quand on demande est-ce qu'il y a un rire qui est possible, qui peut être entendu par tout le monde, je pense que les critiques de la société, elles sont spécifiques, mais dès qu'on va vers la psychologie des gens, il y a quelque chose qui concerne absolument les hommes et les femmes de partout. Hein. Et c'est vrai que les femmes ont été tout de même très brimées très longtemps, elles n'avaient pas le droit... D'abord, le rire, autrefois, en tout cas, c'était quelque chose qui allait contre la beauté. Hein. On n'avait plus de dents, et montrer ses dents, c'était quelque chose de terrible. Ça gonfle les joues, donc il y avait un côté esthétique. On attend des femmes qu'elles soient belles, et le rire les déforme un peu. On voyait ça d'abord. Et puis bon, le rire, il y a toujours, même si c'est le rire le plus gentil de la Terre, il y a quand même presque toujours un petit côté moqueur. Donc les hommes ont peur de ça, enfin avaient peur de ça, au point que je me souviens d'une phrase d'Elisabeth Badinter qui m'amusait, qu'est-ce qu'un homme qui ne domine plus les femmes ?
Et oui.
On est tellement encore sur cette espèce de répartition des pouvoirs que les femmes ont du mal à faire rire aussi vite et autant que les hommes. Alors maintenant, je trouve qu'elles y arrivent.
Oui, elles y arrivent. Amel Chabi en est la preuve, elle est à côté de moi. Dans un instant, on va revenir sur le pouvoir libérateur du rire. Mais comme tous les jours, on attend aussi vos témoignages. Est-ce que vous avez le sens de l'humour ? Quels sont les sujets qui vous font rire ? Vous pouvez même nous appeler pour nous raconter une blague, voir si on rit tous. Mais on verra, on va tester quand même avant. Hein. Vous avez à votre disposition le numéro de téléphone, le 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous envoyer un mail ou une note vocale. Il suffit de cliquer sur le bouton réagir sur la page de l'émission L'été comme jamais via l'application ou le site.
La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Amis, vos tours attendez donc vos tours pour manger. Se régaler, amis vautours, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixé, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer. We'll be right back. même citer, féliciter tout ce qu'on peut se souhaiter. Sagacité, nos cerveaux sont armés. Nos cerveaux. Défi simplement relevé, manche retroussée, tout pour y arriver. La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Et ce gâteau fait pour être partagé.
La vie est belle, mais c'est pas du gâteau, chante Fixie et Nicolas Giraud sur France Inter.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
50 nuances de rire ce matin dans l'été comme jamais. Alors certains thèmes inspirent les humoristes depuis des années, notamment les sujets sociétaux et en particulier la famille. Et la preuve avec ce mix concocté par la facétieuse Juliette Medevielle. Tendez l'oreille, Thomas Poitevin croise Coluche, Véronique Gallo, Florence Foresti, Nora Hamzaoui, Olivier Debenois, Muriel Robin et les Deschiens évidemment.
Et tu nous fais chier à lire, toi. C'est que tu nous fais chier à lire tout le temps.
Je te signale que ton père te parle.
Ursonar, Adrien, c'est quoi ça?
C'est un empereur romain.
Ursonar, c'est un empereur romain?
Non, Adrien.
Oui, bon Dieu, hein, ça va, hein?
À mon lycée, il n'y a que 4 personnes issues de la diversité et tu trouves ça normal, évidemment.
Enfin, Marie, c'est ridicule, on n'est pas raciste. Ton père est au Parti Socialiste.
Au quoi?
Quand on a vu qu'on perdait la guerre en 40, on s'est dit on va faire des gosses, on aura l'air moins con le prochain coup, regarde ce qu'on a. Des biclites!
J'ai dit maintenant tu vas arrêter de me faire chier, tu mets ton bonnet tout de suite, parce que je te jure que si tu tombes malade, je ne te paye pas le médecin. Et si jamais tu as une bronchopneumonie, nous n'irons pas à l'hôpital. Et je ne payerai pas les médicaments ni la pharmacie. Tu mourras seul dans ta chambre.
Poussez-vous! Ça c'est moi qui arrive. Poussez-vous, les glacés! 8h32, dépêche-toi, bordel, cours! Oh, merde! Attendez, on est là! On est là, c'est bon! Allez, bisous ma chérie, je t'aime. Je t'aime mon amour, hein? Attends, les gars Pokémon, rends-moi les gars Pokémon! Non, attendez, rends-moi les gars Pokémon!
Ah, tu vas lui donner à manger? Mais tu sais, le sucre à son âge, c'est quand même un problème. Mais tu fais ce que tu veux, ma chérie. Ah, tu lui donnes une tétine? Non, mais juste à notre époque, on était très anti-tétine. Mais tu fais ce que tu veux, ma chérie.
Ma belle-mère m'a appris qu'elle voulait préparer son enterrement. Elle m'a dit, je veux que vous soyez tranquille le jour où je serai plus là. Mais ça va de soi.
Alors, bon, alors, je sais pas vous, mais moi, alors moi, tout ce qui est cousin, cousine, c'est famille et pas famille. Comment il s'appelle? Ah bah, allez, voilà, tiens. Naz 1, Naz 2, Naz 3. 36, 37, 38, alors... Bon, très bien. Refourguez les merdes. Il est bien, mon testament, non?
Petit florilège de quelques vannes, de quelques saillies qu'on a pu entendre sur le thème de la famille. Sabine Melchior-Bonnet, est-ce qu'il existe une sorte de généalogie des sujets qui font rire au fil des siècles? Est-ce que par exemple, on riait de la famille à la cour ou on préférait les blagues scatologiques?
Heureusement, il y avait Molière. Alors là, je crois que la famille, les mariages obligatoires, il était là pour... Mais c'était toujours c'était toujours les soubrettes qui riaient et qui donnaient le la du rire, en fait. Ce que j'aime bien, c'est que c'est quand c'est à la fois un rire de sanction sociale, mais aussi un rire de sympathie. Enfin, les deux sont,
oui.
sont jamais contradictoires. Et dans les numéros que vous venez de nous présenter, c'est ça, je trouve. Il y a la sanction d'une société quand même qui vit sur des lieux depuis toujours sur un certain nombre de lieux communs, et puis. Voilà, on accepte la critique. C'est ça que les humoristes, je trouve, font si bien.
Alors, j'aimerais vous lire quelques messages des auditeurs que nous venons de recevoir. Jérémy, il nous dit « Je suis porteur d'un handicap moteur. Le rire et l'autodérision m'aident à surmonter les petites et les grosses galères de la vie quotidienne. J'adore le second degré et surtout l'humour noir. » Julien, il nous dit « J'ai un petit garçon de 10 mois qui passe ses journées à rire et je rigole moi-même bien plus que quand je suis avec lui. Je réalise à quel point le vrai rire et pas le sourire devient plus rare lorsqu'on est adulte. » C'est vrai. Nathalie nous dit « Le rire est pour moi un ingrédient essentiel de l'existence. Face à une personne que je ne connais pas et avec qui je suis amenée à échanger quelques mots, la barrière de gêne tombe et un lien très agréable se crée dès lors qu'un rire franc, bien et spontané est partagé », ce qu'on disait en ce début d'émission. Un élément de fraternité. Amel Chabi, est-ce que le rire vous conduit aussi à la liberté ou en tout cas à une forme de liberté ?
Oui, c'est quelque chose que je retrouve nulle part ailleurs, en tout cas dans le stand-up. Je suis complètement libre, quoi. Je peux dire ce que je veux, contrairement à mon travail d'actrice ou réalisatrice où on est tributaire de plusieurs personnes. C'est le seul endroit où j'ai une totale liberté, où je peux faire des bides si j'ai envie, je peux me tromper, et c'est quelque chose que je retrouve.
Ouais. Même physiquement, vous vous sentez
même
libre?
Même physiquement, je me sens libre et plus je prends de l'âge, plus je me sens libre. En fait, quand j'ai commencé, j'étais moins libre, j'étais plus enfermée dans un personnage. Là, je m'en fous complètement, quoi. C'est vraiment, c'est comme une petite drogue. Hein. Il y a un côté, il y a un petit côté shoot, hein,
oui.
Parce que on recherche ce moment à chaque fois où on est libre, où on arrive à faire rire notre auditoire et on a à la quête de ce moment à chaque fois.
Jean-François Alain, est-ce que vous avez l'impression d'accéder aussi à la liberté grâce à l'humour ?
Je suis très envieux de ce que dit Amel parce que moi je suis scénariste.
Et oui, vous ne connaissez pas le shoot,
non.
L'adrénaline de la
pas
scène.
Pas du tout. J'ai des intermédiaires, des haut-parleurs, et c'est beaucoup moins souple que ce que tu fais, beaucoup moins rapide, beaucoup moins... Et je suis assez frustré de ça, souvent.
Mais est-ce que vous pensez au public quand vous écrivez ?
Ah ben bien sûr, évidemment.
Oui.
Je pense au public, non pas pour le flatter ou le caresser dans le sens du poil, mais pour le surprendre. Bien sûr, à chaque fois, et notamment, j'en parle parce que c'est encore d'actualité, quand je pense au troisième OSS, évidemment, il fallait surprendre les gens, que ça leur plaise, mais que ça ne soit pas forcément dans la lignée des deux autres, qu'il y ait quelque chose de plus. Bien sûr, j'y pense très souvent.
Il vous arrive d'aller dans une salle de cinéma pour écouter les réactions ?
Ah non, c'est épouvantable.
C'est horrible pour vous ?
C'est épouvantable parce que je l'ai fait au Festival de Cannes, mais pour la clôture, mais non, j'aime pas du tout, j'ai l'impression que ça ne rit pas et tout ça. Alors peut-être qu'il y a des gens derrière la radio qui font « mais ça rit pas ». Non, mais si, ça rit un peu quand même. Mais voilà, non, je n'aime pas du tout ça. Non, vraiment, j'aime pas du tout ça. Je trouve ça terrible. Je l'ai fait une fois... Et je me suis promis de ne plus jamais
de
le faire.
De plus jamais le refaire.
Non, j'avais été voir le premier OSS au cinéma à côté de chez moi, place de Clichy, et il y avait dans la salle une femme voilée. Bon, et donc je n'ai pensé qu'à cette femme voilée. Et puis je ne sais pas pourquoi, je la regardais. Et c'est bizarre, mais elle riait beaucoup finalement, et surtout elle a beaucoup ri au moment du mezzine, vous savez, cette fameuse scène. Voilà. Mais je guettais les rires,
de
cette femme,
entend,
de tout le monde.
Il faut expliquer peut-être la scène pour ceux qui n'ont pas vu OSS 117.
Oui.
Jean Dujardin.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Voilà.
oui, beaucoup.
Jean Dujardin déteste le cri du mezzine le matin,
voilà.
Et il sait pas ce que c'est,
voilà.
Et il décide d'aller le tuer.
Voilà. Et donc je me disais, j'attendais la réaction de cette femme, je me disais comment va-t-elle réagir, elle a beaucoup ri, mais après je regardais toutes ses réactions et toutes les réactions de la salle, et finalement je ne pensais pas au rire, je pensais au moment où ça riait pas. Donc c'est un moment terrifiant.
Ah ben voilà.
Mais que je vis aussi, je sais pas si Amel tu travailles avec des auteurs ou si tu écris toute seule, mais quand je suis...
Avec mes auteurs, oui, même quand j'écris des scénarios...
Tes auteurs doivent être pareil, quand ils te voient sur scène, ils doivent penser aux blagues qui ne marchent pas et pas forcément à cette
blague. Ils sont pas bien,
voilà.
Le cœur bas...
Un auteur est quelqu'un qui n'est pas bien, il faut le dire.
C'est pour ça que je te dis que le rire c'est très sérieux finalement et c'est douloureux.
Oui.
Souvent c'est douloureux.
Oui,
parce
j'aime
que...
bien cette phrase que vous dites Amel, vous dites faire rire c'est très sérieux.
Oui.
Et d'ailleurs, vous le démontrez en partie dans le podcast que vous animez, Dinguerie Room, parce que vous accueillez des humoristes qui viennent raconter leur métier, qui racontent leurs doutes et puis leurs moments de joie. Je voudrais qu'on en écoute un extrait. Vous recevez Morgane Cadignan qui évoque ses premières scènes.
La première salle, j'ai été complet à ma première au Métropole, la première date où t'es complet avec des inconnus, où tu te dis vous venez pas pour me faire plaisir. Bon déjà c'est une autre pression parce que t'es là, tu vas pas te forcer à rire parce que je t'ai fait un Colombo la semaine dernière. Si c'est de la merde, tu vas pas te forcer. Et ça s'est hyper bien passé. Et les gens étaient morts de rire. Et tellement que j'ai perdu mon texte 1000 fois parce que je regardais les gens en deuxième rang, j'étais là, vous, je vous connais pas. Et vous riez à un truc que je dis, pas par compassion. Et en plus, vous avez payé. Et je vous en donne pour votre argent. Et c'est chambé. Et c'est vraiment à cette date-là que je crois que j'ai commencé à faire du stand-up. Parce qu'avant, c'était juste quelqu'un qui avait un texte et qui essayait d'aller au bout de son stress. Et qui essayait de... Moi, les 8 mois de petite loge, c'était 8 mois où si j'arrivais à dérouler l'heure sans avoir vomi de stress, c'était gagné.
Ouais. Moi, je la trouve très émouvante quand elle raconte ça. On a l'impression, et vous allez me dire si c'est le cas ou pas, que l'humour est vraiment une école de l'humilité.
Oui, et c'est pour ça que j'aime ce métier, parce qu'il n'y a pas de posture, en fait. Si tu fais du stand-up, il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas des rires, je veux dire, du moins. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Là où on va, du moins, dans les comédie clubs, c'est souvent des caves, il n'y a pas de confort. Dès qu'on fait des blagues, on a envie de vomir. Si ça ne marche pas, on n'est pas bien. Si ça marche, on n'est pas bien aussi, parce qu'on veut encore se challenger. Il faut vraiment être amoureux de la blague pour faire du stand-up comme ça tous les jours. Et c'est vrai que Morgane, je la respecte beaucoup parce qu'elle a eu l'honnêteté de me dire qu'elle a commencé, qu'elle kiffait pas forcément le stand-up, mais qu'elle avait envie de faire du stand-up pour être un peu connue, pour pouvoir être comédienne. Et elle s'est fait piquer par le stand-up ensuite. Et maintenant, elle veut plus faire du stand-up que être comédienne.
Ouais. Mais Amel, je pense qu'il faudrait que tu, si je puis me permettre, hein, que tu expliques un peu comment se passent les plateaux de stand-up pour les gens qui ne connaissent pas forcément, pour montrer à quel point c'est très très difficile.
Alors, ouais, vous avez 5 minutes pour faire vos preuves.
On a 5 minutes pour faire nos preuves. C'est des comédie clubs. Maintenant, c'est New York, Paris. Je veux dire, il y a des comédie clubs partout. À Barbès, au centre de Paris. Et on peut tester l'humoriste maintenant. S'il a des blagues dans la tête, le soir même, il peut tester ses blagues 4 fois par soir, quoi. Et c'est pour ça que la nouvelle génération est très forte, parce que c'est comme un muscle. Les blagues, plus tu les testes, plus t'es fort.
Mais tu es suivi par d'autres gens, avant toi il y a d'autres personnes.
Exactement, on est généralement 5 ou 7 sur scène, on passe les uns après les autres pendant 5 minutes, et tu peux trouver un Gad Elmaleh comme un jeune, on est tous mélangés. Les vrais amoureux des blagues sont tout le temps là dans les comédie clubs, et c'est un bonheur quoi.
Et alors quand on voit à quel point les nuances du rire nous différencient, on imagine la difficulté qu'il y a à passer sur un plateau comme ça. Sabine Melchior-Bonnet, est-ce qu'à partir de quel moment les femmes montent sur scène pour faire rire? C'est début du fin du 19e, début du 20e?
Oui, fin du 19e, dans les cafés-concerts, mais ça tout de même pas un public très large, ça ne ressemble pas beaucoup. Et puis surtout, d'abord les textes sont écrits par, la plupart du temps, les chansons et les textes sont écrits par des hommes, et elles sont un peu hors société. On les traite assez facilement. D'ailleurs, Jeanne Avril, par exemple, elle a passé un certain temps à la Salpêtrière. Donc il y a toujours quelque chose d'un tout petit peu maladif à cette époque-là. Et ça fait peur, hein. Ça fait peur à une société qui quand même veut pas tellement rire. Elle veut, il y a une sorte de concordance pour la bourgeoisie honnête et les cafés-concerts et tout ça. C'est quand même un public très très. C'est un peu toujours les mêmes gens qui y vont. Oui. Les concours, par exemple, quand ils vont assister à des séances de café-concert, ils sont horrifiés. Hein. Pour eux, c'est quelque chose de blasphématoire.
Donc ça veut dire qu'il faut attendre.
C'est long à venir. Et alors, il y a une chanteuse qui vraiment, je crois, va faire la Corse, c'est Marie Dubas.
Oui.
Alors, qui est vraiment elle rit d'elle-même, elle a un corps tout de même très, très dégingrandé, très, des bras très costauds. Elle s'habille avec des petites robes à volants de genre Comtesse du Ségué. Et c'est une parodie de la société qui est très, très amusante et qui plaît à beaucoup de gens. Puis alors, petit à petit, dans le théâtre, et puis ensuite il y a les couples, enfin ça vous savez tous ça mieux que moi, les couples qui font rire, parce que évidemment les dialogues peuvent être très, très vifs et très drôles.
Et en fait c'est que cette histoire des femmes et du rire, en tout cas sur scène, elle s'accompagne de l'émancipation des femmes, c'est à peu près aux mêmes périodes en fait.
Oui, enfin les féministes dans les années 70, c'est vraiment le début du début, hein. Je sais pas qui se souvient de Anne-Marie Carrière, par exemple.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que ça commence dans les années 70, c'est d'abord les hommes, et puis c'est les duos, et puis ensuite c'est les femmes seules. Enfin, il y a tout un cheminement.
Mais vous, Amel Chabi,
vous savez, Sabine, Sabine, c'est Amel.
Elle vous entend.
aujourd'hui, encore aujourd'hui, moi, quand je rencontre un garçon, je vais mettre de côté mes techniques de rire, ou dès que je pense à une vanne ou une blague, je vais me censurer parce que je sais pertinemment que j'aurai moins la cote et que dans sa tête, peut-être que ça va le déviriliser et je me mets un peu de côté.
Est-ce que je dis ce que je vous ai raconté hors micro,
Parce que j'aime beaucoup.
Parce que on dit souvent femme qui rit à moitié dans son lit. Et moi, je pense que homme qui rit à moitié sorti de votre lit, Sabine Melchior-Bonnet. Je ne sais pas si vous validez ma petite blagounette. Je ne suis pas humoriste en même temps. Hein, voilà.
Mais ça fait peur aux hommes, non?
Ça fait peur aux hommes, oui, ça fait peur aux hommes. Je crois que maintenant, enfin, vous le savez mieux que moi, mais que les humoristes femmes veulent ne veulent pas perdre leur beauté, donc elles jouent sur les deux tableaux, du charme et de la drôlerie. Alors que il y a eu une époque où vraiment elles acceptaient de s'en les dire pour faire rire. Hein.
On va continuer à en parler. On va continuer à en parler, Sabine Melchior-Bonnet. Si vous voulez réagir vous aussi à l'émission, vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous envoyer un mail sur la page de l'émission. L'été comme jamais, je serai ravie de vous lire à l'antenne.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Smile, une de mes chansons préférées interprétée par Nat King Cole sur France Inter. Smile, dont la musique est signée Charlie Chaplin. C'est en effet le thème de la romance dans son film Les Temps Modernes. Est-ce que selon vous, justement, il y a des génies du comique éternel comme Chaplin?
Chaplin, c'est un génie. C'est un génie, comment vous dire, c'est la base.
Jean-François Alain.
Oui, absolument. Puis c'est le premier à avoir fait vraiment des longs métrages. Mais il faudrait aussi se souvenir de Max Linder.
Oui.
Et que les gens ont un peu oublié, Max Linder qui était un Français, qui était la plus grande star du cinéma muet, la plus grande star mondiale du cinéma muet. Et il y a des films de Max Linder, un peu long métrage, qu'on peut encore voir aujourd'hui, enfin qui sont encore très drôles aujourd'hui. Je pense à Les Trois Mousquetaires, et l'apostrophe étroite. Trois Mousquetaires, où il y a des gars qui sont, qui pourraient être dans le, je sais pas moi, dans le Palmacho,
oui.
Ou, et donc ça, c'est totalement intemporel.
Et alors, hors micro, vous me parliez de Claire Bretéché,
oui.
Jean-François Alain, mais... Claire Bretéché, qui, dont vous parlez énormément aussi, Sabine Melchior-Bonnet, dans votre livre. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, cette femme?
Alors, Claire Bretéché, elle est morte il n'y a pas très très longtemps.
Oui, oui.
Et Claire Bretéché, c'est vraiment les années 70 de la bande dessinée, entre guillemets, sur la société, sur la place de la femme, sur le rapport avec les ados, Agrippine. Et c'est, ça a inspiré beaucoup, beaucoup de gens. Quand je dis inspiré, je suis... politiquement correct, il y a beaucoup de gens qui s'en sont inspirés, et notamment, il y a une fameuse planche de BD sur une addition où des gens qui sont au restaurant doivent diviser l'addition, donc ça me rappelle quelque chose, ça c'est Claire Bretéché il y a 50 ans, et Claire Bretéché donc a travaillé qu'avec des hommes, et elle avait une particularité qui décontenançait beaucoup les hommes, c'est qu'elle était absolument magnifique. Donc c'est comme si c'était un peu, ça, on revient à la conversation
oui,
qu'on avait tout à l'heure.
Belle et drôle, c'était pas possible.
Très
quoi.
Très belle, ouais, très ouais. Talentueuse, très en avance sur son temps, très en face avec la société aussi, et extrêmement belle, mais quand je dis extrêmement belle, niveau très belle actrice, mannequin, oui. Et tout ça. Et je pense que ça décontenançait beaucoup toute cette équipe de... Elle a bossé aussi avec Harakiri, toute cette bande géniale, et c'était un mystère sur deux pattes. Voilà.
Mystère sur deux pattes.
Voilà.
C'est pas...
Oui,
c'est... C'était une très belle femme,
ouais.
Et intelligente.
Mais un talent...
Et un talent incroyable.
Incroyable. Et c'est un humour qui, alors bien sûr, ce n'est pas de la scène, mais c'est un humour qui a marqué et qui marque encore.
Plusieurs générations.
Oui,
on est d'accord.
Mais je pense que Florence Foresti, Muriel Robin avant, sont dans cette lignée-là.
Oui, oui. J'aimerais qu'on accueille un professionnel du rire, mais qu'on ne voit jamais sur scène. Bonjour Grégoire Führer.
Bonjour.
Vous êtes le président et fondateur du Montreux Comédie Festival, que connaît très bien Amel Chabi pour y avoir participé plusieurs fois. L'histoire du festival, elle a démarré il y a plus de 30 ans, alors autant dire que vous avez du recul sur le sujet. Comment l'humour a évolué au cours de ces 30 dernières années, Grégoire Führer?
Oh là là, c'est une question. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre en quelques minutes, mais effectivement, écoutez, on ne va pas tomber dans les grandes évidences, mais l'humour, c'est un miroir de la société, donc la société évolue d'une part, et du coup, on doit s'adapter à ça, et les humoristes doivent... évidemment, continuer à décrypter cette société. Vous parliez de Claire Bretéché tout à l'heure. C'est un miroir de la société déjà à l'époque.
Oui.
Aujourd'hui, le miroir de la société va s'exprimer différemment parce que la société est différente. Mais
ça s'est fini.
L'humour reste toujours, reste toujours le même poids dans la société.
Oui, ça s'est féminisé, ça s'est youtubisé, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qu'on a découvert sur les réseaux et qui viennent et qui sont désormais sur la scène du Montreux Jazz Festival, j'allais dire jazz, parce que vous savez que j'aime tellement le jazz. Le Montreux Comédie Festival.
Ouais. En fait, je crois que ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, donc il y a une immédiateté quand même assez importante. C'est ça, c'est vrai que avant il y avait plus de recul quand même, un spectacle, une bande dessinée, ça prenait du temps à se faire. Aujourd'hui, c'est souvent des tweets, des posts sur Insta ou des TikTok. Enfin voilà, ça va très très vite aujourd'hui. Donc il y a une espèce de brouhaha permanent. Et ce brouhaha, en fait, il oblige aussi les humoristes à réagir en permanence sur l'actualité. Donc des fois, c'est sûr que vous avez une fulgurance qui arrive et tout d'un coup, vous la sortez. Bon, il y a quelques années en arrière, ça passait, on peut dire, ce mauvais gag. Bon, allez, c'est pas très drôle. La prochaine fois. Et puis là, tout d'un coup, bam, on a fait le dérapage, si on veut. Et puis tout d'un coup, ça prend des proportions énormes. C'est souvent la réaction, de la réaction à la réaction qui provoque des problèmes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui peut être un peu parfois compliqué pour un humoriste, c'est de devoir s'auto-censurer un peu, de se dire, là, je vais peut-être pas y aller parce que je sais que je vais me faire taper sur les doigts, quoi.
Oui, je voulais vous appeler.
Des gens qui arrivent à faire des choses formidables, heureusement.
J'avais envie de vous entendre, Grégoire Führer, ce matin, parce que vous avez pour projet de développer le festival, le Montreux Comédie Festival, partout dans le monde, avec notamment l'organisation de soirées événementielles. Est-ce que ça veut dire qu'une blague peut faire rire à Paris, à Bamako, en Jamaïque et à New York, selon vous?
Moi, j'en suis persuadé. Moi, je crois que l'humour international existe. On est encore au début de ce mouvement. Mais moi, je vous donne un exemple. Moi, je suis d'origine suisse et quand j'ai créé le festival il y a 30 ans, j'invitais des humoristes français. Et en Suisse, on me disait, mon Dieu, mais pourquoi tu fais venir des humoristes français? Ils marcheront jamais en Suisse. parce qu'il parle politique, l'humour français est très politisé, puis alors que nous les Suisses on est beaucoup plus ronds, on parle pas de politique, hein, puis moi je regardais ça, j'ai dit je comprends pas, moi je regarde la télévision française, moi je sais qui est Giscard d'Estaing, enfin qui est Mitterrand, etc. Et effectivement ça cartonnait en Suisse. Et puis dans l'autre sens c'était vrai aussi, on me disait non mais un humoriste suisse pourra jamais monter à Paris, c'est pas possible. Alors, j'ai dit mais je comprends pas, c'est notre capitale culturelle Paris.
Et maintenant il y en a plein
qui sont montés. Et aujourd'hui il y a plus de différence entre les Suisses, les Belges, les Français. Il y a eu encore parfois des gaps avec le Québec où on avait aussi cette distance. Maintenant tout ça c'est vraiment resserré. Moi j'investis énormément en Afrique, je suis beaucoup en Afrique, donc on a ouvert quelque chose à Abidjan, on est au Cameroun, où là il y a encore un décalage entre l'humour africain et l'humour européen. Mais je trouve que tous les 6 mois, ce décalage se resserre, et je suis persuadé que dans 5 ans, il n'y aura plus aucun décalage entre un humoriste à Bamako et un humoriste à Paris. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde dira la même chose. Chacun.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui, oui, oui.
Non, moi,
c'est la façon d'aborder le sujet, en fait.
C'est avoir un propos, oui. Avec une culture, sa culture. Vous êtes malien, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas suisse, et vous avez un regard sur le monde qui est différent en fonction de votre culture. Et ça, c'est super important, il faut préserver ça. Par contre, vous avez envie de parler à tout le monde. Vous savez pas, si vous êtes suisse aujourd'hui, que vous êtes humoriste, vous avez de parler à tous les francophones. Vous n'avez pas envie de parler qu'aux gens qui vivent en Suisse. En tout cas, c'est ça la nouvelle génération.
Oui, oui. Et donc,
les réseaux sociaux, le digital, etc. accélèrent tout ça. Et puis, il y a plein de barrières encore à casser, notamment la langue, très important. Mais bon, voilà, il existe des gens qui parlent plein de langues, des gens qui sont chinois, qui naissent à Montréal et qui parlent 4 langues à 10 ans, et qui donc ont envie aussi de mélanger toutes ces cultures. Donc, je pense que c'est un monde qui se construit. Et puis bon, la musique, ça a mis 60 ans, hein, 70 ans avant d'être totalement universalisée. L'humour, c'est un art tout récent. Ça fait aller 20 ans qu'on parle de professionnels de l'humour. Donc voilà, moi je pense que c'est encore quelques années, mais on va y arriver, ça j'en suis sûr. Et puis il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Nous, on a énormément investi aussi dans les nouvelles technologies, le digital, mais la réalité virtuelle. On est en train de monter un comedy club virtuel. On s'amuse en ce moment avec nos équipes à créer des matchs d'impro virtuels entre un gars qui est basé à Montréal et un autre à Paris, et ça marche, ça fonctionne, et on a aussi fait des tests sur des traductions simultanées où
ça fonctionne. Ah oui, pas mal, d'accord.
Ah, c'est bien.
Ben on va vous suivre.
Grégoire, ça bosse, hein, c'est génial.
C'est Ahmed Chabi qui a dit ça, c'est pas moi.
C'est super.
On a profité
de ces 2 ans de
confinement.
Ouais, oui. Ouais.
On était tous à s'ennuyer sur notre canapé
pour réfléchir autrement.
C'est super.
Essayons de réfléchir différemment. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Grégoire Führer. On va continuer à suivre vos aventures avec le Montreux Comédie Festival. La 32e édition alors, du Montreux Comédie Festival classique, hein, se déroulera du 1er au 7 décembre, et tous les renseignements sont disponibles sur le site du festival. Ahmed Chabi, ce genre de rendez-vous permet de se confronter aux autres formes d'humour aussi. Est-ce que c'est une saine concurrence ou parfois ça fait un peu peur
par exemple, la scène de Montreux,
oui.
Elle est, pour moi, je l'ai faite il y a 2 ans. J'ai été tétanisée. Pour vous dire, j'étais tellement, ça faisait longtemps que j'étais pas remontée sur scène, donc j'essayais mes nouvelles blagues, j'en ai vomi carrément, et j'étais tellement tétanisée que je me suis dit, faut que je fasse un truc plus dur que le Montreux. Et qu'est-ce qu'une scène plus dure? C'est jouer dans une chicha.
C'est quoi une chicha?
Une chicha, c'est là où il y a les narguilés, là on fume les narguilés. Donc il y a un monde parallèle d'humoristes qui jouent dans les chichas. C'est le public le plus dur au monde, parce que ce public-là est déjà très marrant. Donc je me suis dit, fais ça. C'est pas très bien vu de jouer dans les chichas, parce que c'est un peu...
Mais c'est où?
C'est des salons de thé, il y en a partout.
Je veux dire, tu parles de Paris, par exemple.
Paris, en banlieue parisienne.
Ah oui,
et donc, j'ai joué juste avant le Montreux. Je me suis dit, tiens, tu vas aller là-bas, c'est tellement dur que Montreux, ça va passer crème après. Et c'est ce qui s'est passé.
Et Sabine Melchior-Bonnet, quand j'entends Ahmed Chabi parler des chichas, alors je ne savais pas qu'on pouvait aller faire de l'humour dans les chichas, ça me rappelle un peu ce que vous racontez des salons où les femmes essayent de faire un peu d'humour.
Au 18e, c'est sombre, c'est caché.
C'est un peu du persiflage. Non, je veux revenir à la Suisse, parce que tout de même, pour moi, une des plus grandes humoristes, c'est Zouk.
Mais bien sûr.
Et Zouk, bon, elle est en Suisse, mais elle représente tous les petits villages un peu abandonnés où rien ne se passe.
Et quand elle dit, au fond, il n'y a qu'une seule chose qui m'amuse, c'est les enterrements. voilà, ça c'était ma première remarque. La deuxième, c'est de se dire quand même que ça peut s'user, le rire. Hein. C'est comme du sel qui vient fortifier un plat. Et il faut à chaque fois que le sel soit encore plus fort, d'où je comprends très bien votre dernière intervention, qu'il faut aller, faut chercher encore plus difficile pour que le rire ne se banalise pas. Au fond, voilà, c'est ça que ça m'inspire. J'avais aussi encore une petite remarque sur, vous avez eu un interlocuteur qui disait que le rire de l'enfant, hein.
Oui.
Et ça m'a amusé parce que, autrefois, pendant très très longtemps, et jusqu'au 19e siècle, on expliquait le rire par les humeurs, et on expliquait que les humeurs des femmes étaient à peu près, et que le cerveau des femmes était mou comme celui des enfants. Et c'est pour ça qu'elles avaient beaucoup plus de facultés pour rire. Voilà, c'était mes petites remarques
que
je viens de découvrir avec vous.
Mais qu'on découvre aussi dans votre livre, Sabine Melchior-Bonnet. Et je garde cette phrase que vous dites, que vous écrivez. Le rire renvoie à une manière d'être ensemble. Deux personnes qui rient de concert ne peuvent être des ennemis. Let's sit around and drink some sake. Same things. Talk about neighbors on the front porch. I wonder if they know we're moving. Hope they don't know my name or personally. Cause I never told him he moved in with me. But fuck him, he kept my money. I'm funny, c'est le titre de la chanson. Je sais, je suis drôle, en français, voilà. Chanson signée Faye Webster sur France Inter. J'espère que le sourire aura été au rendez-vous ce matin, grâce à nos trois invités que je remercie. Merci Sabine Melchior-Bonnet, c'était un honneur de vous avoir avec nous. Il faut lire votre livre, Le rire des femmes, une histoire de pouvoir. C'est publié chez PUF. Merci Jean-François Alain.
Merci à vous.
Le troisième volet d'OSS 117 à alerte rouge en Afrique noire est toujours en salle et je recommande votre série que j'aime tant, Au service de la France. Les deux saisons sont disponibles sur Netflix. Et merci Amel Chabi.
Merci.
En attendant de vous revoir sur scène, au théâtre, au cinéma, on écoute votre voix dans le podcast Dinguerie Room. Comme tous les jours, je vous propose de prolonger le sujet avec un de mes coups de cœur. Il s'agit aujourd'hui d'un livre signé d'un garçon que vous connaissez bien, puisqu'il officie sur France Inter. Le roi n'avait pas ri, est signé Guillaume Meurice et publié chez Jean-Claude Lattès. L'histoire étonnante et passionnante de Triboulet, bouffon de Louis XII et François Ier, c'est à la fois un récit historique et politique extrêmement bien écrit et une réflexion sur l'humour. Je précise que Guillaume Meurice ne m'a pas rémunéré pour ces quelques mots et c'est tout à fait regrettable. Ce numéro de l'été, comme jamais, a été préparé par la joyeuse bande composée de Juliette Medevielle à la réalisation, Rémi Sistiaga à la technique, Margot Page, Anna Massardier et Marie Aubert à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. On se retrouve demain à 9h sur France Inter pour une dernière émission qui, je l'espère, sera emplie de poésie et dont le thème est « Comment préserver son âme d'enfant ?»